parti pour une heure de culture et de société avec Charline Vanhoenacker tout à l'heure, qui va chahuter la grève des médecins libéraux. Et puis vous le savez, France Inter fête la BD tout au long de la journée. Alors Daphné Burki, eh bien elle recevra les deux grands gagnants du jour, les deux lauréats du prix BD France Inter. À 9h20, notre débat du jour y sera aussi consacré. Liberté, censure, autocensure. En France, peut-on encore tout dessiner ? Deux éditrices seront là pour en discuter. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Il y a partir au combat et il y a en revenir. Ce matin, je reçois un médecin qui est parti au combat avec les troupes françaises en opération extérieure et qui en est revenu avec la ferme conviction qu'on ne rencontre pas la mort impunément. Patrick Clairvoy est psychiatre des armées et il a deux livres de chevet, l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, récit de la guerre de Troie. L'Odyssée, le long calvaire d'Ulysse quand il a voulu rentrer. Entre les deux, des soldats hantés par les fantômes de ceux qu'ils ont tués ou qu'ils n'ont pas réussi à sauver. 40 ans de carrière militaire, Patrick Clairvoy les écoute et les soigne. Car un soldat qui pleure n'est pas un faible. Un soldat qui pleure, c'est un homme. Portrait numéro 69. Bonjour mon général.
Bonjour.
Bonjour docteur, oui. Bonjour professeur. Vos titres et vos grades sont multiples. Bonjour Patrick Clairvoy. Merci d'avoir bravé la neige parce qu'il y a tempête aujourd'hui à Paris. Vous arrivez de Toulon et vous publiez aux éditions Odile Jacob « L'homme en guerre ». Votre précédent récit s'intitulait « Frères d'armes ». Il était consacré à votre propre parcours au sein des armées. Et quand je disais « un homme » qui pleure. Un homme qui pleure, vous en avez vu un dans l'armée très jeune. Vous étiez encore à l'école militaire. C'était un adjudant. Et ça n'était pas normal de pleurer.
Oui, c'était notre adjudant-chef, l'adjudant de compagnie. Et il y avait des sergents, des adjudants très jeunes qui nous encadraient, qui étaient plutôt rudes avec nous. Et cet adjudant-chef était touchant parce qu'il était d'une très grande douceur. Mmh. Et par moments, on le voyait pleurer. Nous ne comprenions pas pourquoi il avait obtenu un grade important, il avait de belles décorations qu'il portait sur la poitrine. Pourquoi il pleurait ? Et autour de moi, j'entendais « c'est l'Algérie ».
Donc c'est l'Algérie qui le hantait encore, voilà. Oui, des années et des années après.
Le fond de cette histoire a été très bien résumé par un de mes prédécesseurs à l'école du Val-de-Grâce, qui s'appelait Claude Barrois, qui avait eu cette phrase « le souvenir de l'enfer, l'enfer du souvenir ». C'est-à-dire que le vétéran vit avec ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas réussi, parfois. Et il faut aider ce vétéran à vivre avec cette expérience.
Et quand je dis que les larmes de cet adjudant étaient inhabituelles à l'école militaire, c'est que vous avez raconté aussi, docteur, vous avez raconté que, pourtant, vous qui êtes fils de militaire, vous qui avez grandi dans une culture militaire, quand vous êtes arrivé, les premières impressions de la caserne, c'est la meute. Et c'est une meute sans pitié. Une meute virile et masculine sans pitié.
Oui, ça secoue un peu.
Hein, voilà. Ça secoue un peu.
Mais finalement, on apprend très vite que si on montre des capacités d'attention et de solidarité, très vite on est accepté. Je raconte juste une petite anecdote qui est dans le livre Frères d'armes. Mmh. J'arrive en Guyane, je ne suis pas le médecin du régiment que j'accompagne. Et dans l'avion, je sens qu'on me regarde, dans l'avion qui nous amène vers notre mission, je sens qu'on me regarde avec curiosité et peut-être un peu de défiance. Il se trouve que notre immersion, notre préparation à notre activité en jungle se fait dès notre arrivée et il y a un blessé grave, une entorse grave du genou, voilà, qu'il faut évacuer. Et toute l'équipe m'a vu arriver avec 8 heures de retard parce que je n'avais abandonné ce sergent blessé que lorsqu'il avait été dans un lit d'hôpital, son genou drainé, pris en charge. Et c'est là, quand on voit, c'est ce que j'appelle la fraternité d'armes, c'est-à-dire aussitôt que vous montrez que vous adhérez à ce groupe et que vous ne lâcherez personne, vous recevez de ce groupe, tu auras notre soutien.
Et vous, comme médecin militaire, on va parler de la manière dont vous écoutez les soldats atteints de syndrome post-traumatique, les vétérans, mais vous, comme médecin militaire en opération extérieure, quelle est la guerre, quel est le conflit qui vous a le plus marqué ? Est-ce que c'est l'Afghanistan ? Est-ce que c'est la Bosnie ?
Alors, je vais dire, c'est l'Afghanistan, si on regarde l'intensité opérationnelle, c'est la mission, j'étais présent à Kaboul, au moment, au temps où les forces de l'OTAN ont perdu le plus d'hommes.
Oui.
Voilà. C'était le plus dur pour nous, ce qui paraît incompréhensible. Et dans ce livre, L'homme en guerre, je raconte ce phénomène très étrange qui est que plus la guerre se prolonge, plus il y a d'hommes sur le terrain et moins on arrive à obtenir des résultats opérationnels. C'est un effet de surprise et c'est aussi un effet de déception pour les militaires parce qu'ils disent « mais mon action, qu'est-ce qui va l'aider à se maintenir au fil du temps ?» Parce qu'on sait qu'aussitôt qu'on part, le mal revient. Qu'est-ce que c'est qu'un vétéran ? Un vétéran, c'est d'abord un jeune homme ou une jeune femme qui se sont engagés avec l'idée « je vais essayer d'enlever un petit peu du mal qui ronge notre monde ». Mais finalement, au fur et à mesure de leurs expériences, de leurs épreuves, éventuellement de leurs traumatismes, quand ils reviennent, il peut y avoir aussi l'amertume, il y a tout un chapitre dans ce livre sur l'amertume des vétérans, qui est-ce que les bénéfices de mon sacrifice, de mes camarades qui ont été blessés, voire pour ceux qui ont été blessés, de ma blessure, et des hommes aussi, des femmes qu'on a perdues,
a servi à
est-ce que le bénéfice va durer ? Et il a servi, oui, parce qu'on a le sentiment quand même sur place qu'à un moment donné, on a été utile. Mais est-ce qu'il va durer ? Et je veux dire, par exemple, l'amertume générale que nous avons tous ressentie. Je vais donner deux exemples de mon expérience. Ceux qui sont allés en Afghanistan, notamment les Américains, etc. C'est après les attentats du 11 septembre 2001. Voilà. Et donc, on va en Afghanistan pour combattre le mal, pour qu'il ne vienne pas dans nos villes le faire. Deux moments d'amertume. Ben, le 13 novembre 2015.
C'est-à-dire les attentats sur notre sol.
C'est malheureusement arrivé chez nous, malgré notre effort, malgré nos blessés, malgré nos sacrifices. Et c'est le deuxième temps, c'est quand Donald Trump a restitué l'Afghanistan aux talibans. Voilà.
Le gâchis.
Et donc on peut comprendre aussi cette amertume que parfois il ressent.
Écoutez le témoignage de ce soldat, un parmi d'autres que vous avez dû entendre et écouter dans votre carrière de psychiatre militaire.
On s'est tous chiés dessus. Il y avait mon chef de groupe avait déjà fait l'Afga, lui avait déjà été au feu pas mal de fois. Il avait déjà tué, il avait déjà vu la mort, tout. Même lui, j'ai eu de la chance de vriller de suite. Il y en a qui vrillent plus tard. Moi, j'ai vrillé de suite quand je suis rentré. Ok, on est tous passés devant les docks. Bah, les docks, ils m'ont dit bah, c'est bon, toi t'es en arrêt.
Ils
m'ont foutu direct 6 mois. Hôpital psychiatrique à Bordeaux. C'est quand même assez hard.
Et comme il n'est que 9h16, avec Maria Pasquet, on a évidemment enlevé de ce son ce qui est le plus difficile, le plus atroce à écouter, mais que vous entendez dans votre cabinet. Les soldats, les militaires, vous appellent les sculpteurs de fumée ?
Oui, parce qu'il a fallu du temps pour que rentre dans les esprits que la blessure psychique traumatique n'était pas le signe d'une faiblesse mentale ou d'une faiblesse morale. Encore une anecdote issue de mon expérience. J'étais dans un groupe de travail OTAN qui était consacré à cette thématique. Et nous avons présenté nos travaux à Bruxelles. Et le général qui a honoré de sa présence, de sa très haute autorité, c'était le conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU. Voilà. Et ce général, qui est un général néerlandais, le général Kamaert, a témoigné de son propre PTSD. Je l'aurais embrassé.
Syndrome post-traumatique.
Voilà. Parce que si ce général parle de son désarroi psychique avec lequel il vit, qu'il essaye de combattre au jour le jour, ses insomnies, ses cauchemars, ses réminiscences, ce souvenir de l'enfer, justement. Si ce général en parle, alors le colonel en parlera, alors le commandant, alors le capitaine, le lieutenant, le sergent.
Mais le sculpteur de fumée, c'est ça, c'est-à-dire c'est la vacuité absolue. Quoi. C'est une expression magnifique et tellement signifiante. Et docteur, dans ce livre, vous parlez de la peur et de la confrontation avec la peur.
Oui.
Vous dites « la peur change un homme ». Vous dites il y a à gérer sa propre peur et il y a à gérer la peur des autres.
Oui, et la plus difficile à gérer, c'est la peur des autres.
Pourquoi ?
Parce que chacun lutte contre la peur, contre le désarroi, mais physiologique. On a tous, devant une menace, on a tous une réponse physiologique à cette menace. Mais on la combat, on la maîtrise par différents processus psychiques, par l'entraînement qu'on a subi. Mais si l'un d'entre nous, à un moment donné, a une défaillance, ça nous renvoie à notre propre défaillance possible. D'où l'idée aussi, moi qui m'émeut aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'attention pour cela et j'ai beaucoup d'indulgence pour celui qui, à un moment donné, a eu peur et l'accepte. Parce que finalement, l'expérience de sa peur, c'est l'expérience de ses limites. Et je crois finalement que l'entraînement n'a qu'un seul but, essayer de connaître ses limites et savoir répondre en situation où on a dépassé nos limites.
Qu'est-ce que c'est que le gel de la pensée ?
Ah, le gel de la pensée ? Alors, je vais raconter une autre anecdote.
Oui.
Dans un soldat que j'avais pris en charge qui était en Côte d'Ivoire, et il raconte que donc ils ont été pris dans une opération où plusieurs d'entre eux étaient menacés, et donc il a fallu toute une opération avec des véhicules blindés pour les accompagner, les exfiltrer, et il y en a un qui ne bouge pas parce qu'il est pétrifié. Ça veut dire que le stress a été tellement intense et prolongé qu'il y a une paralysie psychique qui s'installe. Et donc, mon patient me racontait comment il a défait de son sac, etc. Et sous le feu ennemi, il a couru prendre son camarade, parce que c'est des gens qui se laissent faire, hein,
ouais.
Et l'a ramené à l'abri. Et c'est une intervention très courageuse, mais qui montre, moi, ce qui m'a toujours très ému, c'est ces témoignages de fraternité au sein du groupe au combat.
Je vous fais écouter la voix d'une chanteuse grecque qui s'appelle Angelika Ionatos. J'aime particulièrement cette chanson, elle est absolument magnifique. Vous voyez, en lisant le récit et le témoignage d'un psychiatre désarmé, je m'attendais à tout, sauf à plonger dans la Grèce antique, sauf à plonger dans l'Iliade, le récit de la guerre de Troie, les grands héros de la guerre de Troie, et vous dites « c'est un manuel du guerrier », tout sauf à plonger dans l'Odyssée, cette immense, immense quête et martyrologie d'Ulysse qui n'arrive pas à rentrer chez lui, qui n'arrive pas à retrouver Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils, qui n'arrive pas à accoster à Ithaque. Et pour vous, vous dites, c'est le retour du vétéran.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce que je développe dans ce livre est déjà en filigrane dans ces récits de l'Antiquité. Ça veut dire que cette histoire de l'homme, elle est universelle, et je ne fais que raconter dans mon livre l'universalité de l'homme en guerre. Mais la stratégie d'Homère, enfin en tous les cas de celui à qui on prête la rédaction de cet ouvrage, l'Odyssée, c'est que Ulysse, écoutez bien cette phrase, les dieux ont transformé son visage, ce qui fait que personne ne le reconnaît quand il rentre sur Ithaque. Voilà, il n'y a que son chien qui le reconnaît, et finalement, celle qu'il a élevée quand il était petit, quand elle lui masse les pieds et qu'elle voit une blessure.
Sa nourrice.
Voilà. Et quand on regarde l'Iliade, on pourrait se dire que c'est un manuel qui décrit les troubles psychologiques de l'homme au combat. La peur, la rage, le dépit, la colère. Et on peut regarder l'Odyssée comme étant l'ensemble des difficultés auxquelles le vétéran sera confronté quand il essaye de revenir dans une vie ordinaire chez lui, sous son toit.
Vous avez forgé un concept, un syndrome, vous l'avez qualifié en tant que médecin, un psychiatre, vous avez appelé ça le syndrome de Lazare, c'est-à-dire la difficulté à rentrer après le combat.
Oui, alors Lazare, c'est...
La difficulté sociale, la difficulté émotionnelle, la difficulté relationnelle.
Alors,
jusqu'à en être presque exclu de la communauté, à ne plus retrouver sa place.
Ou à s'en exclure lui-même.
Oui.
Hier, j'avais encore en consultation un vétéran qui me dit cette phrase par rapport aux fêtes de fin d'année et aux invitations dans la famille qu'il a pu avoir. Je n'arrive plus à aller vers les autres. C'est là où on voit que le vétéran vit avec un trouble anxieux très particulier qu'on appelle les états de stress post-traumatique. J'en donne le détail dans un court chapitre de ce livre. Et qui fait qu'il est en permanence harcelé par le souvenir de ce qu'il avait vécu. Ce vétéran que j'ai pris en charge, c'est quelqu'un qui avait reçu en ex-Yougoslavie, casque bleu, c'est-à-dire au service d'une population. Il avait pris une balle qui lui avait traversé la gorge et lui avait ouvert la carotide. Il a survécu in extremis. Mais il reste avec ce syndrome du survivant où il n'arrive pas. Il était marié. Il avait un enfant, il a énormément de mal à maintenir une vie sociale. Je n'arrive plus à aller vers les autres. Et je raconte dans un autre chapitre du livre, et je le fais parler, au tout début du chapitre, où je parle de la réhabilitation physique du vétéran et du blessé, parce qu'il y a eu aussi de très très belles démarches dans l'armée de terre. Ma carrière militaire m'a amené à être contemporain de toute une série de dispositifs que l'armée a mis en place pour ces blessés-là, les blessés physiques et les blessés psychiques, notamment quelque chose qu'on appelle la cellule d'assistance aux blessés de l'armée de terre, la CABAT. Je vais aller rapidement. Mais finalement, ces vétérans, c'est aussi par le sport qu'ils arrivent à se reconstruire et qu'on essaye de les réintégrer dans une perspective d'équipe avec des compétitions.
Je vous pose une dernière question, parce que dans vos différents ouvrages, vous abordez ces questions absolument limites d'éthique, de morale, auxquelles le combattant ou n'importe quel membre de l'armée est confronté. J'ai reçu à ce micro, j'aurais voulu le faire entendre et puis on n'a pas le temps, mais une consoeur à vous, Marilyn Gigax, général 4 étoiles, la première femme à avoir dirigé le service central des armées, donc grande médecin militaire, qui nous a raconté ici qu'elle dirigeait un hôpital en région parisienne, un hôpital militaire, le soir des attentats du 13 novembre, et qu'elle a fait face à un afflux considérable de blessés, et que parmi ces blessés, il y avait le terroriste, et qu'elle a refusé de le prendre en charge. Que en ça, elle a trahi son serment d'Hippocrate et qu'elle a remis sa démission ce soir-là parce que c'était un cas de conscience très lourd à porter pour elle en tant que militaire et en tant que médecin. Est-ce que vous, docteur, il vous est arrivé en opération de soigner des ennemis ?
Alors, je vais commencer par dire que Marilyn, je peux la comprendre. Quand on voit ces blessés, ces jeunes, moi j'ai pris en charge des vétérans, vous voyez.
Oui.
Enfin, c'est des victimes du terrorisme, hein, ouais. De l'attentat.
Le lapsus.
Du Bataclan, qui disait, dans une fête où tout le monde aime la musique, on n'a pas compris qui est ça qui est sur elle. Ouais. Et donc je comprends Marilyn Généraux de sa réaction quand on voit tous ces jeunes qui ont été atrocement blessés et tous ces morts. Voilà. Alors, quand j'étais en Afghanistan, on a résout cette question avec mon camarade Rémi Macarès, qui dirigeait l'antenne médicale à ce moment-là, avec le fait qu'on ne se posait pas la question de savoir qui était le blessé qu'on nous amenait. On avait une substance, alors je vous le dis rapidement parce que c'est assez amusant, je m'étais intéressé à une substance qui est un élément sanguin crucial dans la circulation, dans la coagulation, qui s'appelle le facteur 7. Dans les très grandes hémorragies, on perd ce facteur 7, il faut absolument le réintroduire. C'est un médicament qui s'appelle Novo 7. Il coûte 7 fois le prix de l'or.
7 fois le prix de l'or.
Voilà. On en avait des quantités très limitées et nos ravitaillements sanitaires dépendaient de l'activité de l'aérodrome. Enfin,
donc forcément, vous vous posiez la question de à qui je le donne.
À qui je le donne. Et on a fait le choix de ne pas calculer à qui on le donnait. Le ciel a fait que nous n'avons pas privé un blessé français ou un blessé de l'OTAN, de Novo 7, mais on aurait pu. Voilà. Et donc, finalement, par rapport à ce choix qu'a fait Marilyn Généraux, je dirais ceci, nous, on a préféré ne pas se poser la question.
Merci mon général.
Je vous en prie.
Merci docteur, merci professeur. Je redis vos titres et vos grades. Frère d'armes est paru chez Odile Jacob. Bien sûr, c'est le récit d'une expérience militaire, mais je pense que nous tous avons mille et une choses à y apprendre et à y penser. Merci.
Voilà, merci beaucoup.
Things.
Fleetwood Mac, Don't Stop, c'était un tube de 1977. Vous êtes dans le mag de la grande matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h à 9h45 avec Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France. Bonjour. Inter. Les médecins libéraux, ils sont en grève pendant 10 jours. Ils voient large parce qu'il leur faut le temps de savoir qui est le ministre de la Santé. Qui s'appelle
oh, arrête avec ça.
Personne ne sait. Même moi, j'ai lâché l'affaire.
Et puis Daphné Burki avec les deux lauréats du prix FNAC France Inter de la bande dessinée. Alléluia.
Je suis tellement heureuse de vous présenter cette bande dessinée. Bonjour, ce matin, qui s'appelle Solideo Gloria. Elle est merveilleuse, elle est magnifique. De toute façon, je suis toujours heureuse de vous présenter une bande dessinée. C'est un univers vraiment à part. Là, je vais vous raconter comment ça se passe. On va parler de musique, on va entendre les cœurs battre.
Très bien. Et à 9h30 sur France Inter, et ben c'est le débat du jour. Alors toute la journée sur France Inter, vous le savez, on célèbre la bande dessinée. Un secteur créatif foisonnant, mais aussi traversé par de vives polémiques. Alors, posons la question. La BD a été un immense espace de liberté, notamment dans les années 70, 80 et même un peu après. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Peut-on encore tout dessiner?
Je suis le génie du mal, voilà ce que je suis.
Le génie du mal, c'est moi. Et d'ailleurs, je suis plus riche que vous.
Possible, mon ami, mais moi, dans l'abjection, je suis bien pire que vous. Cette fois, nous les tenons.
Éditeurs et dessinateurs ont-ils tendance à s'auto-censurer aujourd'hui? Est-ce une bonne chose ou faut-il le déplorer?
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Et pour en discuter, je suis très heureuse d'avoir face à moi deux éditrices du métier, dont une qui vient de braver la neige, qui a eu plus que du mal, bonjour Lisa Mandel, à arriver jusqu'à ce studio. En fait, vous venez juste à peine d'en franchir le pas. Ça va? Vous remettez
Je me remets de mes émotions.
De vos émotions. Voilà, vous êtes vous-même dessinatrice et vous êtes fondatrice de la maison d'édition Exemplaire. Face à vous, Marion Glénat-Corveller, bonjour.
Bonjour.
Présidente des éditions Glénat, voilà un nom tout à fait glorieux dans la bande dessinée. Vous êtes issue d'une famille de bande dessinée. Vous êtes la fille de Jacques qui a fondé les éditions qui portent votre nom. Vous voulez citer quelques auteurs historiques de la maison Glénat qu'on la resitue?
Oui, beaucoup, puisque la maison Glénat a fait bientôt ses 56 ans de mémoire. Ouais. Et avec un catalogue très riche, notamment des dessinateurs comme Zep qui ont créé Titeuf.
Par exemple.
Qui aujourd'hui résonne dans notre société.
Alors voilà, on va en parler justement. Vous qui suivez des auteurs depuis plusieurs années, quelle évolution vous avez pu observer au fil des dernières décennies, mais là plus précisément dans les années qui nous précèdent?
Je pense, parce que c'est aussi le sujet du jour, que
la bande dessinée est-elle encore un espace
voilà,
de liberté?
Mais je pense que c'est important de rappeler ce qu'est la liberté d'expression à ce micro et pour vos auditeurs. Parce que cette liberté d'expression, elle doit protéger et elle protège l'acte artistique comme une expression essentielle du débat démocratique. Je pense que dans notre société actuelle, on a besoin de débattre, on a besoin de critiquer. Et l'art, évidemment, est une façon de le faire. Comme vous dites, et vous avez raison, cette liberté d'expression, ses contours sont en train de changer, de par la période qu'on vit. Puisque ce qui ne choquait pas il y a des années peut créer aujourd'hui de violentes polémiques. Donc, tout ça est en train de changer, de se transformer. Mais faisons bien attention à cette liberté qui est chère à notre société.
Faisons bien attention. Vous citez par exemple le guide du zizi sexuel. Qu'est-ce qu'il a, ce guide du zizi sexuel? Parce qu'il n'est pas nouveau. Hein.
Il date
d'il y a 20-25
voilà,
ans. Hein, quelque chose comme ça.
Il est sorti, je crois, avant les années 2000. Donc, ouais. On parle d'un album qui est sorti il y a plus de 25 ans, qui avait été dessiné par Zep et écrit par Hélène Brûlère. Quand il est sorti, donc Titeuf et Nadia parlaient aux enfants de l'éducation sexuelle. Et ça a été quantité de polémiques et de pétitions qui sont arrivées au bureau et chez auteurs en disant que Glénat dépravait la jeunesse française. Or, c'était un sujet tout à fait d'actualité et il n'y avait pas de problème particulier sur ce sujet-là. Donc cette censure-là, finalement, elle a toujours un peu existé. Elle est simplement en train de se déporter d'un tribunal vers un tribunal populaire qui est celui, malheureusement,
des réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la censure, elle doit venir d'un tribunal. On va peut-être en parler de l'affaire de Petit Paul.
De Bastien Vivès, dont vous êtes éditrice.
Exactement. Aujourd'hui,
énorme polémique.
Exactement. Aujourd'hui, la censure se fait sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est évidemment un espace de liberté formidable, mais c'est aussi un espace très dangereux puisque tout et n'importe quoi se disent et qu'on
C'est-à-dire
censure
qu'en fait,
l'autre.
Elle se fait en dehors de la loi,
exactement,
en dehors des tribunaux.
Exactement, et on censure très facilement l'autre, puisque le média est très facile, sans parfois avoir les bonnes notions en tête de ce que veut dire censure et liberté d'expression.
Lisa Mandel, c'est intéressant, vous dirigez une maison d'édition dotée d'une charte éthique qui demande aux auteurs de ne pas produire de contenu sexiste, raciste, homophobe ou autrement discriminant. Donc la palette est tout à fait large. Pour vous, c'est une nécessité de poser les bases de la création en ces termes ?
Alors, chez nous, oui, parce que... moi je trouve que c'est un peu la base de ne pas produire du contenu raciste, homophobe, antisémite, grossophobe, validiste. Ça me paraît la base. Les paroles, les écrits restent, quoi. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est vrai que nous, on préfère faire cette charte en amont. Mmh. Et si des auteuristes, en fait, ont envie de publier quelque chose qui ne rentre pas dans la charte, ils peuvent tout à fait le faire ailleurs que chez nous.
Ouais.
Mais une fois qu'ils viennent chez nous, bah, ils s'engagent quelque part à éviter de le faire. Et si par accident, parce que ça peut arriver, ils ont des propos offensants qu'ils ne pensaient pas être offensants. Moi, je pense à des réflexions, notamment, surtout aujourd'hui dans le validisme. Par exemple, alors je le cite, traiter de quelqu'un de « gogol », entre guillemets, bah, ça passait. Aujourd'hui, pour moi, je le fais changer à un auteur. Je dis, bah, mais autre chose, ça ne change pas le fond. C'est validiste, il y a des gens qui vont... Enfin, je ne vois pas pourquoi on le va le laisser alors qu'on peut mettre autre chose. Donc voilà, oui, nous...
Le validisme, c'est la discrimination des personnes porteuses de handicap, voilà, face à des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap.
Et c'est un des derniers endroits. Moi, j'ai pas mal bossé dans la santé mentale en bande dessinée, ouais, où les gens se permettent des choses qui ne se permettraient pas ailleurs. Mais c'est un exemple parmi d'autres, c'est dire oui, on prévient les gens, on leur dit chez nous, il y a des choses qui ne vont pas passer.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Marion Glénat dit attention parce que il y a une forme de censure qui se déplace avec les réseaux sociaux et qui se fait complètement en dehors du cadre du droit, de la loi et des tribunaux. Et vous vous dites au contraire, nous, ces réflexions-là et ces retours des réseaux sociaux, d'une certaine manière, on les intègre parce qu'on les prend en compte. On les écoute et on les prend en compte.
Alors attendez, moi là, quand on fait une charte, j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux. Mmh. Moi, quand je fais la charte, je pense à ma réalité et à la réalité des gens qui travaillent chez nous et à la réalité de ce que moi, j'ai envie de lire dans des bandes dessinées. Et j'ai pas envie de lire des propos homophobes. On en a eu homophobes, sexistes. On en a eu pléthore pendant des dizaines d'années. Juste, j'ai pas envie de lire ça dans les bouquins que j'édite. Par contre, moi, je pense qu'il y a une responsabilité de l'éditeur, effectivement, au départ. Ouais. Après, on va pas aller pleurer parce que il y a... Enfin, je veux dire, nous, voilà, on prévient les choses. Et après, bah, si on a un scandale, au moins, on l'assumera.
Ouais.
On dira... Et après, bah, je déborde un peu, mais par rapport à la liberté d'expression, c'est aussi, faut voir qu'avant, il y a aussi des sujets qu'on ne pouvait pas aborder en bande dessinée parce que ça choquait tout le monde, mais on ne pouvait pas les aborder de manière générale dans la société. Aujourd'hui, on peut. Donc, on peut dire qu'il y a moins de liberté d'expression. Moi, je trouve que sur certains sujets, il y en a plus.
Mm-hmm. Marion Glénat, est-ce que, pour vous, la seule limite, c'est la loi ? Et est-ce que tout le reste relève de la liberté de création ?
Alors, il faudrait être déconnecté de toute réalité pour dire que désormais, chez les éditeurs, tu as raison, forcément, on y pense. La censure, l'autocensure devient un sujet, naturellement. Elle le devient aussi dans l'esprit des auteurs qui ont parfois déjà des ciseaux dans le cerveau avant de créer, en se donnant eux-mêmes des limites.
Sauf qu'on voit bien que vous n'utilisez pas tout à fait le même vocabulaire l'une et l'autre. C'est-à-dire, pour vous, vous dites c'est des ciseaux, c'est-à-dire on s'empêche d'eux. Et vous, Lisa Mandel, vous dites on réfléchit autrement. C'est-à-dire que vous vous dites on crée autrement, on dessine autrement, on pense autrement. Vous vous dites on s'interdit de le faire.
Non, je ne dis pas qu'on s'interdit de le faire. Je dis qu'on prend conscience de ce qui aujourd'hui pourrait poser problème. Je ne dis pas qu'on se censure parce qu'on est notamment chez Glénat l'éditeur de tous les grands dessinateurs de Charlie Hebdo dont on fête malheureusement aujourd'hui le 11e anniversaire de ce massacre. Ils ont été massacrés juste parce qu'ils dessinaient. Et on les édite. Et c'est vrai que Richard Malka dit toujours on ne peut pas juger des œuvres d'une époque avec les lunettes de notre époque actuelle. Et c'est important de dire ça. C'est-à-dire qu'on fait attention aujourd'hui à ce qu'on publie. On accompagne nos auteurs parce que ça peut être aussi très violent pour eux quand une polémique arrive. On en a eu beaucoup chez Glénat, on les a défendus et je peux vous dire que c'est violent à vivre de l'intérieur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs et les auteurs font très attention à ça.
Mmh. Lisa Mandel, vous entendez l'idée qu'il y a une idée de peur, de crainte, qu'il faut réfléchir à chaque pas qu'on fait, chaque dessin qu'on publie, qu'il y a quelque chose de très entravant?
Ah, mais évidemment, en plus, moi, je fais de la bande dessinée d'actualité, donc je fais une page hebdomadaire pour le Nouvel Obs, travaille maintenant depuis peu de temps avec Mediapart aussi. Et en fait, je suis hyper consciente du fait qu'il faut peser chaque mot qu'on dit, surtout quand on parle de faits réels. Après, moi, je partage...
Sauf que vous trouvez que c'est une bonne chose.
Mais alors, attendez. Moi, je pense aussi que c'est la loi qui doit trancher le tribunal populaire. C'est une horreur. C'est une horreur. Pourquoi ? Parce que selon le sens du vent, selon les sens politiques, selon l'évolution de la société, quelque chose qui aujourd'hui est encensé ou est mis au pilori sera l'inverse demain. Donc le tribunal ne peut en aucun cas être populaire. Mmh. Et moi, je pense aussi que c'est la loi qui doit trancher ce qui est censuré ou pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et on ne peut pas tuer quelqu'un pour des dessins. Ça, je suis.
Marion Glénat, est-ce que vous pensez que vous qui avez comme vous avez grandi dans une maison d'édition de bande dessinée, que vous avez vu votre père travailler, qu'il y a aussi une question de changement d'échelle de la bande dessinée française, qu'on est passé d'une époque où elle s'adressait à un public parfois plus restreint, parfois plus masculin, parfois plus initié, à des BD tirés à je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires et à la FNAC. Et donc forcément, le regard change, les questions changent, les polémiques qui vont avec aussi.
Bon, la bande dessinée a toujours été un art un peu transgressif, mais ce qui est certain, c'est que le public s'est largement considérablement élargi, notamment aujourd'hui avec des sujets sociétaux, ouais, sur lesquels tu travailles beaucoup, Lisa. La BD parle aujourd'hui de tout, elle parle aussi aux femmes, ce qui est quand même nouveau, puisqu'il y a encore quelques années, c'était un art quand même réservé aux hommes. Donc oui, aujourd'hui, la bande dessinée parle de tout, elle est très médiatisée, médiatique, et j'en suis ravie, forcément. Et merci à vous d'en parler aujourd'hui.
Ouais. Mais donc forcément beaucoup plus exposé aux critiques, aux polémiques, et forcément à tout ce qui...
C'est sûr que quand on est plus visible, on est plus exposé, voilà, aux polémiques.
Lisa Mandel, il y a tous, vous dites, tout ce qui ne passe plus aujourd'hui, qui passait dans les années 70, 80, 90, et qu'on ne tolère plus aujourd'hui, dites-vous. Et pourtant, on parle aussi d'une forme de backlash, c'est-à-dire... on serait passé par une période woke, éveillée, exigeante sur tout un tas de sujets, et on ne le serait plus aujourd'hui.
Oui, mais forcément, plus on s'exprime, plus on est visible et plus, en fait, on a des détracteurs. Hein, c'est exactement ce que tu disais. Donc, en fait, effectivement, il y a aujourd'hui un retour de bâton avec une montée du masculinisme, de l'extrême droite aussi, qui véhicule pas mal de propos qui vont complètement... Enfin, qui en fait du wokisme, qui est déjà un mot galvaudé, l'ennemi à abattre pour cacher d'autres problèmes, je pense. Hein, je veux dire, je ne vais pas politiser encore plus le débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste, en fait, à une montée réactionnaire, hein, faut dire ce qui est. Et après, évidemment, pendant des décennies, enfin, faut voir ce qui a été publié. Alors, en plus, Glénat, moi, j'ai commencé chez Glénat.
C'est vrai.
Glénat,
avec Nini Patalo.
C'est aussi l'éditeur qui a édité beaucoup de bandes dessinées queer et gay et trans. Et donc, en fait, c'est aussi un éditeur qui a permis l'émergence de toute une bande dessinée alternative,
transgressive à l'époque.
Oui, et qui a eu le courage à un moment donné d'éditer des gens comme Ralph Koenig, Jules Marot. Enfin, c'est l'éditeur de Jules Marot, quand même, qui est un auteur queer transféministe, quand même, qui est important. Donc moi, aujourd'hui, je pense que dans tout ce qui est publié, effectivement, il y a des choses qui sont tout à fait légitimes. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on était au bistrot et on pouvait être assis. On dit ce qu'on voulait au bistrot avec ses trois potes. Aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est des milliers de personnes qui potentiellement ont accès à ça. Quoi.
Et ça va très vite.
Et ça va très vite. Alors, je vous propose toutes les deux de rester avec nous parce que on va écouter Aurel San. C'est le choix musical de la grande matinale ce matin avec son titre Ailleurs. On va évidemment accueillir Charline Vanhoenacker, c'est le moment où elle explose les faits. Et puis entre en studio un dessinateur et un auteur que vous connaissez très bien. Ils viennent d'avoir le prix Fnac BD France Inter. Ils marchent à peu près sur l'eau, là, ils sont dans les couloirs. Ils marchent sur l'eau. Alors eux, la neige leur a pas fait peur du tout. Hein. Ils sont arrivés de la maison de la radio. Je pense que même en rampant, ils seraient arrivés. Vous restez avec nous toutes les deux, Marion Glénat et Lisa Mandel.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. J'ai rien demandé à personne, juste éteint mon téléphone et j'ai tracé. Maintenant ça fait tut 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 quand vous m'appelez. Plus j'imaginais l'avenir et plus j'avais l'impression de voir le passé. Quand on peut que subir, des fois faut juste s'en aller. Goodbye, adieu les vieux potes toxiques, j'me casse. Goodbye, adieu mon pays, merci, goodbye. J'ai un enfant à élever, j'peux plus faire du sur place. J'ai plus de temps à perdre dans vos problèmes de base. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, j'suis ailleurs. J'suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je les entends déjà dire que j'suis parti sans prévenir, je les ai lâchés. Dès qu'ils trouveront quelqu'un d'autre, un sûr qui rejetait la faute, ça va passer. En vrai, je les ai attendus toute ma vie, mais jamais rien n'a changé. Plus je voyais ce qu'ils devenaient, moi je voulais leur ressembler. Goodbye, adieu les drames, les gossips, je me casse. Goodbye, adieu les news dépressives, goodbye. J'ai une famille à aimer, faut que j'y perde de l'espace. Mon cœur est limité, je dois faire de la place. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Et je serai plus jamais seul. Et j'aurai plus jamais peur. En fait, je vais juste devenir ce que je suis. J'ai toujours été ailleurs. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi.
Il est ailleurs, il est ailleurs, Orelsan. Et vous, vous êtes ici avec nous, studio 511 de la Maison de la Radio sur France Inter. Il est 9h46, c'est la journée BD qui continue. Première date d'Orelsan, d'ailleurs, si vous voulez aller le voir chez lui, ce sera à Caen, donc ce sera ailleurs. Et puis après, il y aura une tournée dans toute la France. Alors, Lisa Mandel, Marion Glénat sont restées avec nous, deux éditrices. Vous allez voir, on continue avec un auteur et un dessinateur qui a commencé déjà à dessiner dans le studio. Mais maintenant, c'est Charline. Charline, les médecins libéraux sont en grève depuis lundi et ça va durer pendant 10 jours. Chirurgiens, radiologues ou gynéco manifesteront samedi contre le budget de la sécurité sociale.
Ouh là 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 là, mais 10 jours, c'est long. Et pendant 10 jours, il peut y avoir au moins 2 ou 3 ministres de la Santé qui succèdent au gouvernement, en fait. Non, mais ça rend le dialogue moins évident. Alors, les médecins sont en grève depuis lundi et ils se donnent rendez-vous samedi pour manifester. Eh bien, vous voyez, quand ils veulent, ils peuvent donner un rendez-vous rapidement. On entend partout cette semaine, impossible d'obtenir un créneau chez le médecin. À la campagne, ils doivent être là, ok. Et où est l'info? Moi, je pense aux gens qui ont pris rendez-vous il y a 3 mois. Et là, ça tombait justement cette semaine. Il va falloir patienter 10 jours de plus. C'est long, mais c'est 90 jours de moins que pour consulter un médecin en Lozère, par exemple. Alors, pour éviter les réquisitions, 2000 praticiens libéraux se sont organisés pour s'expatrier en Belgique cette semaine.
Non.
Si. Alors, la Belgique, c'est vraiment devenu le pays où les gens, ils y vont quand ils veulent plus d'un truc. Tu vois. C'est les médecins qui veulent pas être réquisitionnés, les patrons qui veulent pas payer d'impôts. Mais donc, si ce matin, quelqu'un est victime d'un malaise dans le Thalys et qu'on demande, est-ce qu'il y a un médecin à bord? Ils seront 200 sur le coup. En plus, en ce moment, on est en plein pic d'épidémie de grippe quand même. Alors, ajoutez à cela que depuis lundi, on se pète la gueule sur les trottoirs à cause de la neige et du verglas. Bah là, ça tombe bien parce que les radiologues sont dans la rue. Ils sont tous là et vous voyez un petit peu, quand on n'est pas là, ça fait mal au cul. Hein. Alors, je me demande ce que ça donne une manif de médecin, moi. C'est déjà, ils se donnent rendez-vous à 14h à République, ils arrivent à 15h30. Et là, ils déversent des tonnes de compresses usagées devant le ministère, peut-être. Mais les médecins libéraux, hein, donc, les chirurgiens, les gynécos, ça, ils descendent jamais dans la rue. Hein. Non, ça va se voir qu'ils sont pas habitués. Hein. Rien qu'au niveau des slogans, hein, ça va faire...
Macron, t'es foutu! Les autorités de la radiologue sont dans la rue!
Je suis...
Et les généralistes conventionnés secteur 2 sont dans la rue aussi.
Ah, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le mégaphone. Et il a pas rouillé, hein. Et ça rouille pas, ce machin-là, hein. Alors, l'avantage avec les manifs de médecins, c'est que si la police est borgne à manifestants ou flashball, la prise en charge est immédiate. Heureusement, parce qu'avec la grève du privé, l'hôpital public est au bord de l'asphyxie. Enfin, eux, pour les remercier, on les applaudira à 20h. Alors, depuis son élection, quand même, Macron a tellement favorisé les ultra-riches qu'aujourd'hui, même les médecins libéraux doivent se mettre en grève. Parfois, je me demande si Macron, il s'accroche pas au pouvoir juste pour voir toutes les catégories professionnelles se mettre au moins une fois en grève sous son mandat. C'est bon, les fleuristes sont en grève. Allez, je peux démissionner. Attendez, tant que j'ai le mégaphone. Je peux me faire un petit kiff.
Ouais, Macron, démission.
Tous ensemble.
Macron, démission.
Oh, ça fait du bien. Et c'est thérapeutique, Sonia. C'est mon médecin qui me l'a conseillé.
Allons bon, Charline Vanhoenacker et son mégaphone.
La grande matinale. France Inter, faites la BD.
Alors, faites la BD avec Daphné Burki et les deux stars du jour.
Mais oui, il est 9h50, nous sommes en direct dans la grande matinale de France Inter. Et ma nouvelle tête ce matin est une bande dessinée, mais pas n'importe laquelle. L'objet qui est dans ce studio est une pure merveille. Et il se trouve qu'il a gagné le prix BD Fnac Inter. Mais je ne suis pas du tout une fille influençable, j'ai un énorme crush pour cette histoire et je suis tellement heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Les heureux créateurs sont présents dans ce studio. Jean-Christophe Devenet au scénario, bonjour.
Bonjour.
Et Édouard Cour au dessin, bonjour.
Bonjour.
Il a levé son crayon pour me dire bonjour. Et cet ouvrage que j'ai dans les mains, je le montre alors qu'on n'est pas à la télé, mais c'est une vieille habitude. Solideo Gloria aux éditions Dupuis. Bienvenue encore une fois sur France Inter. J'imaginais, et j'ai eu la réponse, que cet ouvrage a pris des mois, voire des années. Il a pris 4 ans de gestation, cet album de près de 300 pages. J'imagine que ça doit vous faire plaisir d'être récompensé. Mais quel sentiment vous avez eu lorsque vous l'avez vu pour la toute première fois en vitrine d'une librairie, un des endroits les plus chouettes au monde, ou tout simplement en ligne, une fois qu'il était terminé, et puis tout simplement séparé de vous?
C'est toujours un moment assez émouvant, et puis c'est vrai qu'il existe en fait. C'est du temps de travail, c'est des mois de boulot, et d'un coup c'est concrétisé. Et donc c'est vrai que ça a été une chance incroyable de le voir exister. On a eu un accueil en plus des libraires qui a été fabuleux.
Édouard, comment vous vous êtes senti?
Enfin, il existe. Il n'y a pas que moi qui le regarde tous les jours.
Édouard, il est en train de dessiner pendant ce petit moment. Qu'est-ce que vous avez décidé d'illustrer ce matin?
On va partir sur Elma qui chante.
Je la reconnais, Elma. Je vais vous raconter évidemment l'histoire, Jean-Christophe. Il faut la raconter aux auditeurs. Solideo Gloria, ça suit le parcours initiatique de jumeaux. Il y a Hans et Elma, enfants de paysans, dans une Europe ancienne et volontairement indéterminée, je ne me suis pas trompée là-dessus, qui découvrent la musique comme un art total, un appel qui les élève, qui les met à l'épreuve, qui les sépare aussi parfois, qui les oblige à se demander jusqu'où on est prêt à aller pour toucher l'absolu. On est embarqué en tant que lecteur avec eux. Comment on se sent, Jean-Christophe, au tout début de votre histoire, quand vous avez eu l'idée, comment vous vous êtes senti? Vous l'avez commencé comment?
L'idée, elle est... Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la musique classique. Il y a un peu un genre, un peu de ces heures d'histoire. Moi, j'avais beaucoup vu des films comme Farinelli, comme Le Maître de Musique, comme Amadeus. L'idée, elle naît vraiment pendant le confinement du Covid, donc ça nous ramène à des moments un peu moins joyeux. Oui. Mais ben voilà, à ce moment-là, j'ai eu une vraie remise en question sur à quoi sert mon métier, à quoi ça sert de raconter des histoires quand on est dans un monde en pandémie. Et je me suis tourné vers des époques qui étaient pires. C'était ma thérapie un peu bizarre. Je vais voir ce qui est le plus dégueulasse ailleurs, voir s'il y avait mieux avant. Et je tombe sur le 18e siècle, qui est effectivement une époque terrible d'épidémie, de guerre, de famine. Et je connecte ça aussi avec la musique baroque. Et je me dis, il y a quelque chose d'intéressant là, parce qu'on a à la fois une période très très cruelle, très injuste, et on a un art musical qui aboutit à une espèce d'absolu. Et c'est ça qui m'a intéressé, de voir comment l'un et l'autre s'enchevêtrent. Si l'un l'aide à soigner, est-ce qu'on arrive à se guérir par la musique ou pas?
Et ce son qu'on entend, c'est l'un des sons qui vous a accompagné, l'Adagio de Bach. Vous avez pensé à tous ces grands compositeurs comme Vivaldi, comme Bach, comme Handel, qui ont presque disparu dans l'anonymat. Ça vous a déclenché aussi des envies?
Ouais, c'est en travaillant sur la documentation, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que Vivaldi, en fait, avait quasiment disparu jusqu'au début du XXe siècle. Alors que c'était un compositeur très connu au XVIIIe, on n'entend plus parler au XIXe et c'est des musicologues qui vont le ressusciter. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que j'avais une espèce de foi dans le fait que les œuvres d'art nous survivaient, qu'une fois qu'elles étaient installées, elles allaient durer éternellement. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et ce motif de la disparition, il est vraiment aussi au début de l'écriture.
Alors, quand on pense à ces jumeaux dans cette histoire, Hans compose, Elma, elle interprète. C'est un couple, finalement, de créateurs à deux têtes. Un peu comme vous, je suis désolée de vous le dire, il y a quand même dans ce studio un scénariste et un dessinateur. On voit d'ailleurs que le compositeur a un très gros égo hein, dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est le moment de se le dire, Jean-Christophe, Edouard. Comment il est né ce duo de jumeaux? Comment ça s'est passé entre vous?
J'ai l'impression que les deux jumeaux, ils contiennent tous les deux un peu de nous. C'est pas aussi binaire que ça. Voilà. Il n'est pas le compositeur n'est pas que le scénariste. C'est les deux moitiés de cerveau d'un créateur et on se bat entre les deux. Donc ils sont le résultat de nos égos, de nos doutes.
Mais c'est quand même Jean-Christophe qui démarrait et ensuite vous dessinez.
Oui, alors c'est un peu l'ordre. Après, on fait un aller-retour permanent, c'est-à-dire que même sur l'histoire, Edouard amène énormément de retours et de points de vue. Moi, je pense qu'être créateur et scénariste, ça demande plutôt de l'humilité que de l'ego. C'est-à-dire que moi, mon travail n'existe pas tout seul. Pour que mon travail soit visible, il faut que quelqu'un le fasse exister, il faut qu'il y ait du dessin, il faut qu'il y ait de l'animation. Donc ça demande vraiment cette part d'humilité.
On retourne dans ma nouvelle tête parce qu'elle s'appelle quand même Solideo Gloria. Et c'est une histoire tellement épique qui mélange nos repères. Il y a du fantastique qui s'invite dès le début et ça commence un peu comme Hansel et Gretel. Avant de nous emmener dans un monastère horrifique, puis à un château à la Dracula, au carnaval de Venise, avec les castrats dans la grande Rome décadente baptisée Romula pour le coup. On a l'impression que vous vous êtes offert toutes les libertés possibles, et c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui est merveilleux dans la bande dessinée. Mais les libertés historiques, des libertés géographiques, narratives, est-ce que c'est aussi une façon de donner au lecteur la permission de rêver très grand?
Complètement. J'ai d'abord envisagé le projet de manière plus historique, et puis j'ai commencé à me dire que ça allait pas être possible, qu'il allait falloir faire coïncider des dates entre Bach, Vivaldi, que j'avais pas envie de faire ça. Et en fait, en faisant ce pas de côté de créer un univers alternatif, ça a fait un appel d'air pour la fiction totale. Et à partir de là, effectivement, ça offre une immense liberté. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet aux lecteurs, justement, et aux lectrices d'aller imaginer des choses et de se laisser porter.
Alors, on imagine des choses. Le fil conducteur de ce parcours initiatique, c'est donc la musique. Edouard Cour, qui est à côté de moi, vous avez inventé une vraie grammaire graphique. Il y a du noir, il y a du blanc sur 300 pages, une esthétique presque de gravures anciennes, je ne sais pas comment vous avez fait cette histoire, et les notes de musique, c'est comme, faut imaginer des traits brisés, il y a des arabesques, un peu comme des branches un peu abstraites, qui donnent l'impression que la musique, elle circule dans l'air, dans les corps, dans la page surtout. Qu'est-ce que vous avez choisi pour illustrer justement l'immatériel qu'est la musique ?
L'intuition avant tout, et puis en fait, sous couvert de parler de la musique, tout ce qu'on voit c'est une réflexion plus sur finalement l'art expressionniste abstrait, plus c'est ce qui se passe dans l'album, et du coup je me suis laissé guider, et puis comme eux, comme dans l'histoire, partir de quelque chose de très simple, le chant d'un oiseau, et puis petit à petit ajouter une grammaire pour la flûte, pour le chant, pour un chant instable, puis un chant plus stable, et petit à petit les choses se construisent jusqu'à la fin, me surprendre moi-même avec le résultat.
Ce que vous êtes en train de faire là, parce qu'il est en train de dessiner Elma justement, et il y a de nouveau ces arabesques, ces espèces de branches qui ont germé dans le studio de France Inter que vous
Elle ressemble à Daphné Burki
en vidéo. Oh non,
si, avec ses grands cheveux.
Ah oh non, elle est incroyable, Elma. On s'attache tellement à eux, tous les deux.
Marion, est-ce que Lisa, est-ce que vous l'avez lu cet album déjà? Est-ce que vous l'avez eu entre les mains, toutes les deux?
Eh bien non.
Je ne sais pas si je vous le passe, mais je vous le montre quelques arabesques, parce que tout d'un coup, il y a un petit peu de couleur qui s'est glissé quand même au bout d'un moment. Il y a un petit peu de couleur, Edouard, que vous avez glissé par moment.
Tout à fait. C'est la vie qui vient. Il fallait qu'il se passe quelque chose qui ressorte.
Il fallait vider deux marqueurs.
Alors tous les deux, vous travaillez sur une histoire qui parle d'élévation et qui parle de foi dans l'art, que je partage tellement, de dépassement de la condition humaine. Qu'est-ce que cette bande dessinée, elle a déplacé en vous personnellement, parce que je sais qu'à chaque fois qu'un auteur de bande dessinée se lance dans une histoire, c'est quand même vertigineux. Qu'est-ce qu'elle a déplacé en vous pendant sa fabrication ?
On ne sait jamais où on va arriver, en fait, quand on commence. On a des idées, on a des intuitions, et c'est vrai qu'on se laisse porter aussi par le récit et par là où nous emmène la fiction. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'on avait fait. Ça peut paraître bizarre, mais je sais que quand on a commencé à en parler après la fin de l'album, quand on a terminé l'album, je me suis dit on a fait un monstre. On a vraiment fait un truc qui est énorme.
Oui, c'est vrai.
Pas dans le sens où c'était forcément quelque chose de fabuleux, mais je me suis dit ça me dépasse en fait, vraiment. Et le retour des libraires, des journalistes, et toutes les discussions qu'on a eues avec des lecteurs, des lectrices, des musiciens aussi, me font dire qu'on a touché des choses effectivement qu'on n'a pas compris sur comment l'art effectivement peut nous dépasser et nous amener à communiquer avec les autres.
Alors voilà, ça s'appelle Solideo Gloria. Merci d'avoir été avec nous. Bravo encore. C'est donc le prix Interfnac qui a été ce matin au micro.
Voilà, et merci à Lisa Mandel et à Marion Glénat d'être restées avec nous pour découvrir le dessin absolument magnifique qui vient d'être réalisé en direct dans le studio 511, Solideo Gloria, qui paraît chez Dupuis. La journée BDL continue sur France Inter, elle continue aussi chez Ali Rebéi juste après les infos. Bonjour Ali.